Lévitique 26.
La disposition un peu bizarre du devant de la salle de culte avec ce tableau, c'est donc parce que nous arrivons dans notre série d'études des cinq sacrifices de l'Ancien Testament et des sept fêtes religieuses. Nous arrivons au sixième fête religieuse qui est le jour de l'expiation. Rappelez-vous, vous êtes juif, vous pouvez assister à toutes les sept, vous devez assister, mais vous pouvez assister à toutes les sept fêtes religieuses si vous montez trois fois à Jérusalem, parce que certaines de ces fêtes sont collées les unes aux autres. Vous montez au début du printemps pour célébrer trois fêtes, y compris la Pâque, la fête du pain sans levain, et... Donc, ces fêtes nous parlent de l'accomplissement du salut en Jésus-Christ dans l'année 30 de notre ère. Vous attendez cette semaine et vous montez une deuxième fois pour un seul jour de fête qui est la Pentecôte. Et c'est la fin du printemps. Et dans cette fête, la moisson, la fête de moisson, l'Ancien Testament l'appelle, il y a une grande moisson de 3000 personnes le jour de la Pentecôte, peu après donc la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, cette fête se réalise dans le Nouveau Testament, tout comme la fête de la Pâque, ce sang de l'agneau aspergé sur la porte qui délivre le peuple de Dieu de l'esclavage en Égypte se réalise lorsque nous sommes délivrés par le sang de Christ.
On a l'école de dimanche.
Ah, excusez-moi. On n'a pas eu l'école dimanche depuis des semaines, donc là j'ai perdu l'habitude, excusez-moi. Allez les enfants. Oui, il faut crier, hein. Vous savez combien je suis oublieux. Donc, ce deuxième voyage ne concerne pas les événements de l'accomplissement du salut, mais de l'application du salut. C'est dans le maintenant de l'histoire, dans l'ère de l'Église chrétienne, où par la Pentecôte et la venue de l'Esprit, le salut que Jésus a opéré sur la croix est amené aux élus qui sont attiré à la foi par le Saint-Esprit envoyé le jour de la Pentecôte. Mais en septembre, le mois de Tisri pour les Juifs, on doit monter une troisième fois pour trois fêtes. La fête des trompettes que nous avons vue dimanche passé, où pendant une journée entière, des trompettes résonnent. Imaginez, on est tous là, pendant une journée entière, on entend le son des trompettes qui sonnent au-dessus des sacrifices pour nous appeler à nous réveiller parce que dans 10 jours vient le jour de l'expiation, le jour le plus saint de l'année religieuse d'Israël, qui représente une sorte de jour de jugement final. Trompette. Nous devons nous affliger ce jour de jour de l'expiation, le seul jour dans le calendrier religieux où on doit jeûner. Et dans le livre des Actes, on appelle le jour de l'expiation le jeûne. On est obligé par Dieu de se lamenter, de se regarder, de regarder nos péchés devant un Dieu trois fois saint et donc de paraître devant sa face. Donc, vous pouvez comprendre que ce troisième voyage et ces dernières fêtes ne concernent pas l'accomplissement de salut par Jésus en l'an 30, ni l'application du salut tout au long de l'histoire de l'Église, mais plutôt la consommation du salut. Je l'ai dit, consommation. Excusez-moi, j'ai fait la même erreur la semaine passée et là, je suis bloqué. Donc, nous arrivons au point culminant du plan de Dieu. Parce que ces fêtes religieuses sont une sorte de calendrier de l'histoire, depuis la venue du Christ jusqu'à la fin du monde. Dieu montre son plan de salut. C'est époustouflant de savoir que les Juifs, chaque année, rejouaient une pièce de théâtre de toute l'histoire humaine et le plan de salut. Donc, nous sommes arrivés à ce jour qui est le 10e jour du mois de Tisri, 7e jour, 7 numéro sacré de l'année. Et nous voulons, nous en avons parlé un peu la semaine passée, mais nous voulons parler et comprendre un peu le rite qui est particulier à ce jour. Qu'est-ce qui sépare le jour d'expiation des autres jours? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là qui est différent? Et qu'est-ce que ce jour doit nous dire parce que ce jour nous parle en tant que chrétien? Bien, la dernière chose que je dois vous dire en introduction, c'est que nous avons ici le plan du temple ou de la tente de rencontre. Et ce que vous devez savoir, c'est que cette tente représente le cosmos. Alors, par exemple, ici, vous avez... Il faut que j'ai de la place pour... Ouais. Ici, vous avez le lieu saint, ce rectangle, et les rideaux qui sont les murs de ce lieu sont bleus pour nous rappeler du ciel. Et donc, sur ces rideaux sont tissés des anges. Des anges ici et des anges ici. Ici, c'est le lieu très saint. Le lieu où seulement le grand sacrificateur peut aller. Et lui, seulement un jour par année, ce jour de la fête de l'expiation. D'accord? Et dans ce lieu... Il y a l'Arche de l'Alliance qui est une sorte de marche-pied du roi, du grand roi de l'univers, le marche-pied de Dieu. Okay? C'est le trône de Dieu ici. La présence manifeste se révèle, de Dieu se révèle ici. Et personne ne peut voir parce qu'il y a un rideau très épais qui sépare le lieu saint du lieu très saint. D'accord? Ici, il y a des chérubins pour nous montrer que nous sommes vraiment dans la présence immédiate de Dieu, ce que les Juifs appelaient le troisième ciel. Premier ciel, c'est l'atmosphère ici. Le deuxième ciel, c'est la galaxie. Et le troisième ciel, c'est la présence immédiate de Dieu. Donc ici, nous avons en quelque sorte les cieux visibles et le paradis. Okay? Ici, nous avons dans la cour la terre et la mer. Les articles ici sont tous couverts d'or pour nous parler de la présence de Dieu. Les articles ici, une grande cuve pour laver, un autel, sont pas couverts en or mais en bronze pour nous parler d'une situation plus terrestre. Ok? Et ici, il y a une immense cuve où les sacrificateurs devaient faire des lavements, mais on appelait cette cuve dans l'Ancien Testament la mer. Donc, il y a une mer, il y a une terre pour représenter la planète Terre qui est à côté du ciel et du paradis. Okay? Et donc, dans le rite du jour de l'expiation, le grand sacrificateur va aller de la terre dans les nuages et aller arriver dans la présence de Dieu lui-même, ce que Christ a fait exactement au jour de son expiation, au calvaire et sa résurrection. Il est allé au-delà du voile, dans la présence immédiate de Dieu, pour présenter son sang devant Dieu lui-même. D'accord ? Bien, avec tout cela, nous pouvons maintenant vite faire le survol de Lévitique 26 et nous allons juste lire par des bouts. Premier point, première question. Qui accomplit les rites du jour de l'expiation? Qui les accomplit? Et la réponse, c'est le grand sacrificateur tout seul. Lisez avec moi les versets 1 à 10. C'est une description générale du rite de cette journée, après quoi il va redire une description, mais plus détaillée. Mais lisons les versets 1 à 10. Pardon. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'aurais dû dire 16 et j'ai dit 26, je crois. Alors, donc, quand je regardais, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. OK. Donc, 16.1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron qui s'étaient présentés devant Dieu et qui en étaient morts. C'est très important ce contexte. Parce que les deux fils du grand sacrificateur ont tenté de venir devant Dieu sans être ordonnés et sans venir de la bonne manière. Et Dieu les a tués sur le coup et a ordonné à Aaron, ne pleure même pas et ne fais pas deuil. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire ou dedans du voile. C'est-à-dire dans le lieu très saint, au-delà de ce voile, devant le propitiatoire qui est l'arche en rouge, de peur qu'il ne meure comme ses fils, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Ça, c'est le problème. La présence de Dieu pour vous et moi n'est pas un bonheur, mais un danger mortel dans notre état de péché tel que nous sommes. Voici de quelle manière Aaron entrera dans le sanctuaire, le seul jour où il va entrer, le jour de l'expiation, avec un jeune taureau comme sacrifice pour le péché et un bélier pour holocauste. Il se revêtira d'une tunique sacrée en lin et portera sur son corps des caleçons de lin, il se ceindra d'une écharpe de lin, donc tout est blanc, et se couvrira la tête d'un turban de lin. Ce sont les vêtements sacrés dont il se revêtira après avoir lavé son corps dans l'eau. Il doit laver son corps tout entier, alors que d'habitude, les sacrificateurs doivent laver les mains et les pieds. Il recevra de la communauté des Israélites deux boucs en sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau pour le péché, pour lui-même, ce péché, il fera l'expiation pour lui et pour sa famille, et donc pour les autres sacrificateurs. Il prendra les deux boucs, ça c'est pour le péché du peuple, et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de rencontre, donc à l'entrée vers ici. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azaël. Je vais m'arrêter là et on reprendra tout à l'heure. Donc nous avons dit, première question, qui accomplit les rites? Et vous voyez que ici, au temps de Moïse, c'est Aaron qui est le grand sacrificateur, lui seul. Une fois qu'il est mort, c'est celui qui le remplace. Et ce jour-là, il aura 5 animaux à sacrifier. Les autres sacrificateurs vont aider de manière un peu banale. Ils vont amener les animaux vers ici. Mais personne, je vous dis, personne ne va pénétrer ici. Personne ne va égorger les animaux. Personne ne va recueillir leur sang. Personne ne va aller dans la présence de Dieu, sauf le grand sacrificateur tout seul. Il est habillé non pas dans les habits normaux du grand sacrificateur qui sont très colorés, bleu, rouge, enfin bordeaux, couleur d'or, enfin les couleurs du temple grosso modo, mais il est dans un habit très simple, tout en blanc, que les autres sacrificateurs n'ont pas. Ça le sépare beaucoup de lui lorsque nous sommes en train de le regarder ce jour d'expiation. Et ça nous frappe, son humilité et sa pureté. Il est tout blanc, celui qui va dans la présence de Dieu, mais lui, il va comme un pénitent, parce qu'il doit offrir un taureau pour ses péchés à lui. Attention, nous aussi, la manière d'entrer dans la présence de Dieu. Donc, la deuxième question que nous voulons nous poser, c'est quelle sorte de sacrifice devait-il offrir le jour de l'expiation? Alors, il y a trois sortes. Il y a les sacrifices ordinaires du jour, mais il y avait des sacrifices quotidiens au temple, et bien sûr, on les offre. Deuxièmement, il y a les sacrifices festifs, qui sont spéciaux, et qui sont offerts pour montrer le caractère du jour comme un festival religieux. Et donc, pour ces offrandes, il y a un taureau, un bouc, sept agneaux, un chevreau, et nous n'allons pas parler de ça aujourd'hui, parce que c'est la sorte d'offrande qu'on a aussi dans les autres fêtes religieuses. Mais, donc, faites les sacrifices ordinaires, les sacrifices festifs, et troisièmement, il va offrir des sacrifices spécifiques au jour de l'expiation. Et c'est de ça que nous voulons parler. Des sacrifices qu'il ne va jamais offrir, personne ne va jamais offrir à un autre moment, et lui, tout seul, il va faire cela. Troisième question. Quel était donc ce rituel spécial du jour de l'expiation? Qu'est-ce qui se passe dans cette partie qui est spécifique à ce jour-là? Ok, on va juste rapidement voir et schématiser ce qui se passe. Ok, nous sommes juifs, nous sommes là ce jour-là. Et donc, la première chose qui se passe, c'est que le sacrificateur, le grand sacrificateur, il prend un taureau, il égorge et il recueille le sang de ce taureau dans un bol. Verset 11, nous lisons. Aaron offrirait son taureau pour le péché et fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau pour le péché. Et donc cela, il le fait ici. C'est un autel. A-U-T-E-L, où on tue les animaux. Et on recueille le sang, et il prend une partie du sang dans un bol. Deuxièmement, il va prendre un brasier plein de charbon de l'autel de l'encens, du parfum, et donc il va entrer dans le lieu très saint pour la première fois, et donc pour cela, il va entrer dans le lieu saint, et ici c'est l'autel de l'encens. Il n'y a pas un animal qui brûle là-dessus, mais de l'encens qui brûle, et la fumée va entrer par-dessus dans l'autre pièce, d'accord, pour qu'il y ait une nuée normalement. Mais lui, cette fois, il va prendre des charbons de cet autel, de cet autel de l'encens, et il va entrer avec cela et avec de l'encens dans ce lieu très saint. Donc, une fois qu'il est dans le lieu très saint, le rideau est plié pour qu'il puisse entrer ce jour-là. Il entre dedans et donc il va, je ne veux pas oublier quelque chose, il laisse le brasier avec les charbons sur l'épaule qui tiennent l'arche de l'Alliance. Il le pose là. Il prend deux mains pleines d'encens et il le jette sur les charbons ardents qu'il a amenés là-dedans. Et qu'est-ce qui arrive? Il y a un nuage de fumée qui remplit le lieu très saint de la présence de Dieu. Donc nous avons un grand sacrificateur, et là il entre complètement, il entre dans la présence de Dieu sur des nuées. Ça vous rappelle de quelque chose? La Bible parle du Christ qui vient se présenter devant l'ancien des jours sur les nuées du ciel. est-ce qu'il sera accepté ou est-ce qu'il mourra dans la présence de Dieu? Il a une corde attachée à la cheville parce que s'il meurt, personne ne peut aller le chercher. On doit, si on entend que les clochettes sur lui arrêtent de sonner, on doit tirer son corps. Et comme ses fils, Aaron serait mort pour n'avoir pas obéi à Dieu. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que on a appris bien la leçon. Mais cet encens est un appel pour la miséricorde en entrant dans la présence de Dieu. Maintenant, le grand sacrificateur, il va... Je vais quand même vous lire les versets 12 et 13. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté du dessus de l'autel devant l'Éternel et deux pleines poignées de parfum aromatique en poudre. Il portera cela au-delà du voile, comme nous avons dit. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage et il ne mourra pas. Il est protégé par cette nuée d'encens. Ensuite, il va sortir du lieu très saint et il va chercher le sang du taureau dans le bol qu'il a laissé à l'autel. Et il va revenir dans le lieu très saint, jusque dans le lieu très saint, où il va asperger un peu de ce sang du taureau. Et ça, nous allons le lire au verset 14. Verset 14 nous dit: il prendra du sang du taureau et fera l'aspersion avec son doigt sur le devant du propitiatoire vers l'est. Donc ici, l'est est dans cette direction, vers Éden. C'est significatif. Et donc, il est juste là. Et il va asperger du sang sur ce propitiatoire, cette boîte en or. Et il va aussi en mettre par terre juste devant le propitiatoire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il asperge sept fois, sept le numéro pour montrer une expiation complète, et il va ressortir. Il ressort et maintenant il va aller dans la cour à l'entrée de la tente de rencontre et il va placer deux boucs devant l'Éternel. Cela, nous l'avons lu dans les versets 7 et 9, je reprends. Il prendra les deux boucs et les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente de rencontre. Aaron jettera le sort sur les deux boucs et un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron offrira le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et en fera un sacrifice pour le péché. Donc, il a déjà pris un taureau pour ses péchés et les péchés des sacrificateurs. Maintenant, il faut qu'il s'occupe des péchés du peuple. Donc, il prend deux boucs ici, il jette un sort et un bouc est choisi pour l'Éternel et un bouc est choisi pour Azazel. Vous ne connaissez pas Azazel, moi non plus. Il y a eu du débat pendant des siècles, qu'est-ce que ça veut dire Azazel? Il y a grosso modo quatre idées, mais on ne retrouve pas exactement. C'est soit le nom d'une personne, un endroit, une action comme expulsion. La racine du mot semble vouloir dire expulser, ça va bien avec le sens, ou certains pensent que Azazel est un nom pour Satan. Peu importe, quelle que soit la réalité, quel que soit le sens du mot, le sens du rite est lucide, est limpide. D'accord? Et c'est ça que nous voulons voir. Donc, il jette ce sort et il tue le bouc qui est pour l'Éternel et il prend du sang du bouc dans un autre bol. Maintenant, il va entrer la troisième fois dans le lieu très saint, mais cette fois avec le sang du bouc pour le peuple. Et cela, nous lisons dans le verset 15. Lisez avec moi. Il égorgera le bouc pour le péché du peuple et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. Même chose. Donc, il accomplit le même rite ici avec le sang du bouc. Ensuite, il va commencer à partir de l'intérieur ici et avec le sang du taureau, le bol est toujours là-dedans, et le sang du bouc qui vient de prendre dedans, il va purifier le temple, le tabernacle, tout entier, de l'intérieur vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Depuis le ciel vers le cosmos. D'accord? Et donc, nous lisons dans les versets 16 et suivants ceci. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire. Donc, vous voyez que c'est maintenant pas pour le peuple ou pour lui-même, c'est pour le sanctuaire. L'expiation pour le sanctuaire à cause de l'impureté des Israélites, de leurs crimes et de tous leurs péchés. Nos péchés ont souillé le cosmos. C'est pour ça qu'il y a des tremblements de terre, la mort chez les animaux, les maladies chez les plantes. Parce que nous, nos péchés, notre rébellion en tant que chef de la création, hein, nous avons souillé le cosmos de Dieu. Il fera de même pour la tente de la rencontre qui demeure avec eux au milieu de leur impureté. Il n'y aura personne dans la tente de rencontre lorsqu'il entrera pour faire l'expiation dans le sanctuaire jusqu'à ce qu'il en sorte. C'est lui seul qui fait tout. Il fera l'expiation pour lui et pour sa famille et pour toute l'assemblée donc d'Israël. Il sortira vers l'autel qui est devant l'Éternel. Ça, c'est cet autel ici. Je vous ai dit, depuis l'intérieur jusqu'à l'extérieur, il va purifier. Et il fera l'expiation pour l'autel, pour cet autel qu'on appelle l'autel des holocaustes. Il prendra du sang du taureau et du sang du bouc. Je vous ai dit qu'il utilise les deux parce que ce sont les péchés des sacrificateurs et du peuple qui ont souillé. Et il en mettra tout autour sur les cornes de l'autel. Il fera sept fois avec son doigt l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des Israélites. Donc, pour être précis, il va prendre donc du sang dans le bol du taureau et il va asperger ici sur ce rideau. Ok? Il va prendre ensuite du sang de bouc et il va asperger aussi sur le rideau. Ensuite, il va prendre les deux bols, il va verser comme ça, laisser tout le sang dans un bol et le reste, il va faire avec un mélange des deux sangs. Il va en asperger ici sur l'autel des encens et il va aller jusqu'ici pour asperger sur l'autel des holocaustes. Symboliquement, il est en train de purifier toute la maison de Dieu, qui est le cosmos. Parce qu'un jour, Dieu va faire sa demeure dans l'univers entier, de manière visible et manifeste. Nous avons presque fini. C'est le dernier point, et puis nous allons tirer des conclusions par rapport à comment Jésus-Christ a accompli ce que tout cela symbolise. La dernière chose dont nous avons parlé, donc, c'est qu'il, quand il a tout purifié et qu'il est ici, il va prendre le bouc vivant qu'on a laissé ici, en charge de quelqu'un, et il va mettre ses mains sur la tête de cette bouc vivant, qu'on ne va pas tuer, et il va confesser les péchés du peuple sur la tête du bouc. Et il va le renvoyer, l'expulser. Quelqu'un va accompagner ce bouc et l'expulser dans le désert, dans un endroit inhabité. D'accord? Comme pour dire qu'il a pris les péchés du peuple, tous les péchés du peuple, mais tout, pour toute l'année, depuis la dernière fois qu'on a fait le jour de l'expiation. Et il les a enlevé loin du peuple pour toujours. Donc nous lisons dans les versets 20 et 21 ceci. Il achèvera de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente de la rencontre et pour l'autel, puis il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et confessera sur lui toutes les fautes, toutes des Israélites, et tous leurs crimes avec tous leurs péchés. Il les mettra sur la tête du bouc. Nous pensons à notre Sauveur sur la croix. Et puis, il le chassera dans le désert par l'intermédiaire d'un homme disponible. Le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes dans une terre désolée. On chassera le bouc dans le désert. Pourquoi deux boucs? Les deux boucs sont un bouc. Mais il faut deux pour comprendre tout ce rite. Le premier bouc, rappelez-vous que les deux boucs sont pour le peuple, pour nous. Le premier bouc montre la méthode du salut. La méthode, c'est un substitut qui meurt et dans le sang paie la peine de nos péchés. Ça, c'est le premier bouc. Le deuxième bouc montre non pas la méthode du salut, mais les effets du salut, les effets de l'expiation. Parce que rappelez-vous, personne n'a vu tout ce qui s'est passé avec le sang du premier bouc. Personne n'a rien vu. Donc, pour placarder devant tout le monde ce qui s'est vraiment passé à l'intérieur, invisiblement, il y a un deuxième bouc qui, devant les yeux du peuple, va recevoir les péchés sur lui et va être expulsé pour jamais loin du peuple. Et par cela, nous lisons dans le verset 30, lisez avec moi, le message qui est compris. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Vous serez purs de tous vos péchés devant l'Éternel. Et bien sûr, nous pensons à l'agneau de Dieu qui ôte loin, qui amène loin le péché du monde. Et nous pensons au psaume 103:12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos péchés. Pourquoi l'Orient et l'Occident? Parce que le bouc est envoyé par là, à l'ouest, dans le désert. Autant l'Orient, la présence de Dieu, où nous serons un jour, est éloigné de l'Occident, autant il a éloigné nos péchés de nous. Ça, c'est la bonne nouvelle et ça, c'est la réalité que nous avons en Jésus-Christ. Et nous chanterons à tout jamais la grâce merveilleuse de Dieu qui éloigne de nous nos péchés. L'accomplissement dans le Nouveau Testament, rapidement. Premièrement, ce rite du jour de l'expiation nous enseigne de quelle sorte d'expiation nous avons besoin. De deux manières. Pourquoi est-ce qu'il faut un jour d'expiation si pendant toute l'année, on a fait des sacrifices chaque fois qu'on péchait, et chaque matin, et chaque soir, et chaque nouvelle lune? Il y avait des sacrifices. Le jour de l'expiation donne un message aux Juifs. Tout ce système lévitique de sacrifice était inadéquat. Il faut un grand jour de sacrifice, un jour qui est différent, où un sacrificateur va aller jusque dans la présence de Dieu lui-même et vraiment en finir avec notre culpabilité et notre péché. Et c'est pour cela que nous lisons dans Hébreux 10, la loi possède une ombre des biens à venir et pas l'exacte réalité. Et que ces sacrifices ne peuvent pas ôter le péché. Nous lisons aussi dans Hébreux 9. En effet, un tabernacle avait été installé, on le voit ici, dans la première partie appelée le lieu saint, on trouvait ceci et cela. Puis derrière le second voie se trouvait la partie appelée Saint des Saints. Tout ainsi disposé, les sacrificateurs entrent en tout temps dans la première partie, là, du tabernacle. Mais dans la seconde, seul le souverain sacrificateur pénètre une fois par an, non sans y présenter du sang pour lui-même et pour les fautes du peuple. Le Saint-Esprit montré par là, écoutez bien, parce que c'est Dieu lui-même maintenant qui va nous donner la leçon. Le Saint-Esprit montré par là que l'accès du Saint des Saints, la présence même de Dieu, n'est pas encore ouverte tant que le premier tabernacle subsistait. C'est-à-dire, le jour d'expiation est un jour qui nous donne un message. Tout ce que nous sommes en train de faire ne vaut rien. Il vous faut quelque chose de mieux. Il vous faut un sacrifice non d'animal. Mais comme vous êtes homme, c'est un homme qui doit payer la peine de vos péchés. Ça doit venir d'un homme, mais d'un homme tellement parfait. Ensuite, c'est pour cela que nous avons lu dans Hébreux 10 que par une seule offrande, Jésus a sanctifié, a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment, chers amis, un sacrifice inouï qui engouffre toute conception, toute pensée. Nos pensées deviennent tellement petites, nous n'avons aucune imagination de la manière dont ce sacrifice du Fils de Dieu, le Dieu infini, fait homme, et qui obéit jusqu'au bout sur la croix, qui n'endure pas tout simplement la mort comme un animal. Attention, le calvaire, c'est pas une action de patience de la part de Jésus-Christ. C'est pas comme si vous déversez de l'eau chaude sur moi et j'endurerai ça. La Bible dit que c'est pas une action passive, mais active. Il a déversé son âme jusqu'à la mort, dit Isaïe. Il a déversé. Ou il a bu la coupe de la colère de Dieu jusqu'à le lit. C'est actif. Chaque moment sur la croix, Jésus est en train d'activement prendre le jugement sur lui de l'enfer. C'est incroyable, ça. D'obéir et de chercher et de prendre et d'obéir jusqu'au bout, d'expier. Il n'y a jamais eu une action si juste, si active, si pénible, si incroyable dans l'univers. Aucun homme ne pourrait le faire sauf lui. Nous avons une meilleure expiation. Ensuite, Aaron préfigure Jésus. Quand on le voit tout en blanc, n'est-ce pas, et tout seul, nous comprenons que nos péchés, chers amis, sont réglés devant Dieu par un seul et par sa seule mort au calvaire. Les prêtres dans une église ne vont pas vous aider à aller au paradis. Les mérites des saints, la mère de Jésus-Christ, tout cela ne vaut rien et n'a aucune part dans le salut. Vous avez vu, c'est le souverain sacrificateur seul qui fait tout et qui accomplit l'expiation des péchés. Et c'est pour cela que nous avons lu dans Hébreux chapitre 10 et les versets 12 et suivants. Mais lui, après avoir présenté un seul sacrifice pour le péché, s'est assis à perpétuité à la droite de Dieu parce qu'il a fini le travail. C'est déjà fait. Jésus a fait tout ce qu'il a fait. Et chers amis, je ne sais pas si vous êtes tous chrétiens ici aujourd'hui. Si vous n'êtes pas, j'ai quelque chose à vous dire. Depuis le jour où Jésus est mort jusqu'à la fin du monde, rien ne va se passer pour s'occuper de vos péchés. Depuis qu'il est mort, Dieu n'exige rien de plus que ce que le Christ a fait et ne veut rien de plus. Ne mettez pas vos confiances dans vos œuvres, dans les mérites des saints, dans tout ce qui peut venir après la mort de Jésus sur la croix. C'est Jésus qui a tout payé. Et toute la gloire du salut lui revient. Troisièmement, le jour de l'expiation, ce sang de bouc et de taureau n'a ouvert le chemin au souverain sacrificateur qu'à un lieu très saint sur la terre. Il n'est pas allé au ciel. Il n'est pas allé dans le au-delà du voile des cieux qui sont là. Mais le livre d'Hébreux nous dit que Jésus a fait justement cela. Nous lisons dans Hébreux chapitre 9, les versets 10 et à 12. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit par la main de l'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire céleste, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. C'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Et ça, c'est très important pour nous, parce que le but de l'expiation n'est pas, c'est pas une fin en soi. Pourquoi est-ce qu'il y a une expiation? Parce que nous sommes appelés, vous êtes appelés à vivre dans la présence immédiate de Dieu. C'est ça le but de votre existence. Vous avez été fait par Dieu pour vivre dans la présence bienfaisante et glorieuse et aimante de Dieu. Mais vous ne pouvez pas à cause du péché. Sauf s'il y a l'expiation qui est tellement forte, tellement bonne, que ça vous enlève toute espèce, tout souvenir de péché. Le but de l'expiation, c'est qu'un jour, nous vivions dans la présence de Dieu, ou plus exactement, la présence de Dieu remplisse le cosmos. Et tout le cosmos va devenir le lieu très saint. Et nous qui sommes là, nous serons dans un univers où le péché a été expulsé pour toujours. Ce lieu très saint est déjà ouvert à nous partiellement, non pas pour demeurer, mais chaque fois que vous priez, vous y accédez. Hébreux 10, 19 à 23. Que le lieu très saint de la présence réelle de Dieu vous est ouvert par le sang de Christ. Priez, utilisez ce privilège inouï, parce que c'est ça que vous êtes en train de faire. Vous accédez à la présence même de Dieu. Les anges le savent peut-être plus que vous. Vous seriez étonné de savoir à quel point vous êtes là quand vous priez au nom de Jésus. Et je crois que je m'arrête là parce que je suis allé beaucoup trop plus lent que prévu. Mais c'est merveilleux, n'est-ce pas? Tout ce que le Seigneur a fait pour nous et tout ce qui nous attend. C'était un drame ce jour-là, chaque année. Et le drame du calvaire a tout changé pour nous. Nous allons prier, nous allons chanter, pardon, pour nous préparer pour la scène. Et je vais demander aux frères qui allaient chercher la table de la chercher, Timo et Andrés. On va installer la table de la scène. Vous avez donc un chant sur une fiche qui s'appelle « Devant le trône ». Et donc si vous pouvez chanter cela, vous pouvez chercher la table, oui.
Plaider, cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains. Mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Il ne pourra me condamner, il ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Et l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté, dont il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté, pour toujours ma vie est cachée. Ô Jésus, mon sauveur, mon Dieu, ô Jésus, mon sauveur, mon Dieu.
Seigneur Jésus-Christ lui-même préside la scène. On appelle cette table dans le Nouveau Testament la table du Seigneur. Et je vous assure que le Seigneur n'est pas absent de sa propre table. Vous me voyez, mais c'est le Christ vivant qui vous connaît, qui vous aime, qui vous donne les éléments qui représentent son corps et son sang. Et il vous les donne en vous disant: mon œuvre sur la croix continue dans toute sa puissance et vous purifie aujourd'hui et pour toujours. Vous avez part, dit-il à vous, vous avez part à ma mort. N'agissez pas comme si ce n'est pas vrai. Ne baignez pas dans votre culpabilité. Ma grâce est plus forte, mon amour est plus grand. Pour votre péché. Paul dit ceci: j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit. Et il dit: ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Le nouveau lien d'amour, lien, contrat éternel entre moi et vous, lequel je vous prends à moi. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur comme votre salut, comme source de salut pour vous, jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est que du pain? Physiquement, il n'y a pas de transsubstantiation, mais Christ investit ces éléments de la valeur symbolique qui fait que nous avons affaire avec le corps et le sang de Christ. Et faire la légère avec ces éléments dans ce rite, ça revêt une très grande gravité devant Dieu. C'est pour cela qu'il y a parmi vous de malades et d'infirmes,
et qu'un assez grand nombre sont décédés dans cette église de Corinthe qui abusait la scène. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc nous venons avec un esprit humble, avec pénitence. Nous ne venons pas comme des parfaits. Cette table n'est pas pour des parfaits. C'est pour des gens qui ont besoin d'un sang coulé et d'un corps brisé. Et ça, c'est nous. Nous venons en tant que pécheurs, mais pécheurs pénitents. Nous ne voulons pas garder nos péchés, nous ne voulons pas continuer nos péchés. Donc, je vous invite à participer si vous êtes converti à Jésus-Christ, si vous vous êtes repenti, si vous avez cru, si vous avez été baptisé, vous avez rejoint l'Église de Christ parce que c'est un sacrement de l'Église. Si vous n'êtes pas dans l'Église, vous ne pouvez pas en comprendre. Si vous n'êtes pas chrétien ou baptisé, regardez pour le moment ce portrait du salut, parce que c'est un portrait de l'Évangile. On est sauvé parce que le Christ donne et fait. Nous n'avons rien apporté nous-mêmes à cette table. Et nous recevons tout simplement. Nous recevons et nous disons, oh, gloire à toi, merci. Nous embrassons tout ce que tu as fait pour nous. Donc, Timo va distribuer le pain. Veuillez garder le morceau. Une fois que tout le monde est servi, nous mangerons ensemble. En effet, Christ aussi est mort une seule fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort selon la chair, il a été rendu vivant selon l'esprit. Car il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude et de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ceux qui sont dans la terre que ceux qui sont dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Moi, dit le Seigneur, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Le Père m'aime parce que je donne ma vie, afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Dit le Seigneur, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de recevoir le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le Seigneur nous convie, le Seigneur nous donne le pain, le Seigneur investit le pain de cette valeur symbolique et il nous dit, voici, son corps a été donné pour nous. Il y a en fait une seule coupe, dit le Nouveau Testament, mais on ne peut pas boire tous d'une coupe à la fois, n'est-ce pas? Une coupe, un peuple, mais on vient à Christ l'un après l'autre, individuellement. C'est toi qui dois croire en Christ. C'est toi qui dois embrasser ce qu'il a fait. Et donc, je vous invite à soit boire de la coupe en commun, soit du gobelet. Mais buvez quand vous recevez donc le gobelet ou la coupe pour montrer l'individualité de votre conversion, votre relation personnelle avec le Seigneur. Et buvez avec foi en vous disant vous-même, Seigneur, je crois en ton sang qui enlève qui expulse loin de moi tous mes péchés. Mais celui qui a été fait pour un peu de temps inférieur aux anges, Jésus, nous le contemplons couronné de gloire et honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a goûté la mort pour tous. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même aussi le Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand nombre, apparaîtra une seconde fois, sans qu'il soit question du péché, pour ceux qui l'attendent en vue de leur salut. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort à nos péchés, nous vivions pour la justice. Lui, dans la meurtrissure, vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le berger et gardien de vos âmes. Je vous invite à prier librement si vous voulez pour terminer le culte.
Père, je veux te louer, te remercier parce que je crois, et c'est toi qui m'as donné de le croire, que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Que je suis entièrement purifiée et que je vais avoir part à cette vie éternelle que tu promets, que j'espère en ce cosmos où tu habiteras complètement uni avec toi. Sois-tu loué, ô Père, en Jésus-Christ et par ton Saint-Esprit. Amen.
Amen.
Merci mon Dieu pour cette communion fraternelle. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ce sang, ce pain et ce vin qui nous régénère. Tiens-nous toujours dans ta parole, Seigneur. Amen.
Amen.
Merci mon Père pour vraiment ce sacrifice de Jésus-Christ, lui qui est vrai Dieu et vrai homme. Lui qui, en tant que vrai Dieu, a pu faire ce que nous étions incapables de faire, c'est-à-dire payer véritablement pour nos péchés. Et en tant que vrai homme, il a été vraiment il a accepté d'être la victime, alors que c'était nous les coupables, lui l'innocent. Et il a pris sur lui véritablement la condamnation, le jugement que nous méritions. Et comme la mort n'a rien trouvé en lui, elle l'a redonné et 3 jours après, il est revenu à la vie pour attester que vraiment ce sacrifice a été accepté par toi, mon Père. Merci vraiment parce que, par la foi, nous sommes considérés, déclarés justes, justifiés devant toi. Non pas parce que nous avons fait quoi que ce soit, mais parce que notre substitut a fait pour nous par ses œuvres et nous a sauvés. Merci Dieu notre Père pour Jésus-Christ. Merci pour son corps. Merci pour son sang. Merci pour son sacrifice parfait, accompli une fois pour toutes, et qui ôte véritablement, totalement nos péchés. Béni sois-tu, notre Père, à tout jamais, dans le nom de notre Sauveur Jésus-Christ.
Amen.
Pardonne-nous, notre Dieu, pour toutes les fois où nous avons voulu mêler à l'œuvre du Fils de Dieu nos propres mérites, où nous avons voulu abandonner un peu le statut du pécheur coupable pour être un demi-pécheur qui n'a plus autant besoin du Sauveur qu'avant. Pardonne-nous, Seigneur, ta parole dit que nous trébuchons tous de plusieurs manières, et que si quelqu'un dit « Je n'ai pas de péché », la vérité n'est pas en lui. Tu nous sanctifies, tu nous changes, mais nous avouons que jusqu'au bout, nous serons tellement le pécheur devant toi, nous aurons seulement un argument devant toi, un recours, une joie, une gloire. C'est toi, Christ crucifié, tout notre salut du début à la fin. Prends nos vies, œuvre en nous, aide-nous à voir tout cela mieux. Nous voyons si peu, nous t'aimons si peu. Nous nous remettons à toi. Amen. Bon dimanche.